Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode d'Aux Premières Loges, le podcast où on revient sur chaque match des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2024. Olivier Prince, gros lot à l'animation, est en compagnie de Vincent Poirier, mais aussi de quelqu'un qui fait sa toute première apparition aux Premières Loges. Vous l'avez sûrement vu à Jason Ballon Rond, mais c'est sa première fois ici à APL. Et je parle de Baptiste Rastello. Les gars, comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va très bien. Une autre belle soirée de hockey, des matchs extrêmement divertissants, d'autres moins. On a eu certaines grosses batailles de gardiens et d'autres gardiens que ça a été mollo. Fait qu'on va parler de tout ça là, avec à trois ce soir. En commençant par Rangers Capitals, match de 4-3, donc plus serré que le dernier. Les Caps qui se sont donnés, qui ont quand même offert une bonne opposition à la puissance offensive des Rangers. C'est Connor McMichael qui a ouvert la marque. Ensuite, deux buts des Rangers, Trocheck et Zibanejad. Donc, celui de Zibanejad en avantage numérique. Dylan Strome qui réplique en avantage numérique pour les Caps. Mais ensuite, là, on va clouer le cercueil des Capitals avec Roslovic et Miller, même si Wilson va rejeter un but en fin de troisième. Les gars, en fait, je vais commencer par Vince. Tiens, qu'est-ce que tu as retenu de cette performance des Capitals? Qu'est-ce qui manquait? Puis, est-ce que tu penses que ça va être possible de battre les Rangers lorsqu'on va être à domicile, ou tu vois vraiment cette série-là complètement à l'avantage des Rangers?
Ben écoute, ce match-là, c'est le match que j'appréhendais le moins de la soirée, parce que comme je l'avais mentionné lors de l'épisode précédent où on revenait sur le match d'avant, je voyais une domination totale des Rangers dans cette série-là. J'ai été quand même surpris des Capitals. On a senti qu'il y avait plus de réalisme dans leur attaque, dans leur percée offensive. Cette fois-ci, on peut voir justement, ils ont été capables de capitaliser sur des avantages numériques, chose qu'ils n'avaient pas été capables de faire lors du premier match. Mais encore une fois, la force de frappe des Rangers, je ne peux pas croire que cette équipe-là est capable de sortir un lapin de son chapeau comme il l'a fait au dernier match, et comme il l'a fait encore une fois ce soir. Cette offensive-là est trop forte et je vois mal encore une fois. J'ai l'impression qu'on a vu tout ce que les Capitals étaient capables de faire pendant cette série-là ce soir.
Je suis d'accord, on dirait que c'est le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Puis c'est triste à dire, mais on dirait pas une équipe de séries éliminatoires. Je pense honnêtement qu'une équipe comme les Red Wings ou comme même les Pingouins aurait pu donner une meilleure opposition aux Rangers. Je dis vraiment pas qu'ils auraient gagné cette série-là, mais les Caps n'ont pas ce qu'il faut. Là, on voit, je suis d'accord avec toi, ils ont travaillé fort, ils ont sorti fort en début de match, réussi à marquer le premier but. Mais comme tu l'as dit, là, cette force offensive des Rangers puis les Capitals sont juste pas capables de rivaliser avec ça. Il y a aussi des grosses blessures à la ligne bleue côté des Caps. Là, Nick Jansen. J'oublie les autres qui sont blessés, mais il y a trois gros défenseurs là, qui sont blessés. Puis on fait appel à des défenseurs qui n'ont vraiment pas d'expérience. Donc ça, c'est vraiment nuisible. Baptiste, bienvenue premièrement. Puis aussi, qu'est-ce que tu penses de cette série-là jusqu'à date? Est-ce que les Caps ont une chance de gagner un match à la maison peut-être?
Ouais, déjà aujourd'hui, ça a été un match vraiment unité spéciale. Là. C'est deux buts de chaque côté en avantage numérique. Un but infériorité numérique pour les Rangers sur un revirement d'Ovechkin. Fait que ça va être difficile, je pense, pour les Caps. Moi, personnellement, je ne vois pas comment ils peuvent remporter le match, mais on le sent en série encore plus qu'en saison régulière. L'avantage de la maison, ça peut jouer. Donc, j'attends de voir ça va être comment à Washington. Mais comme Vincent l'a dit, là, la force de frappe offensive des Rangers, c'est vraiment, vraiment fort. Moi, où je pense qu'il y a quelque chose que je me questionne un peu. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet récemment, les propos de Marc Denis qui disait que Charlie Lindgren, c'est le quatrième meilleur gardien selon lui en série en ce moment.
Je sais pas Marc Denis, c'est son top 10 là, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Surtout qu'il affronte Chesterkin en face qui est un des meilleurs de la ligue. Je ne sais pas s'il y a un si grand avantage selon les propos de Marc Denis par rapport à cette position-là. Après, c'est sûr que l'effectif des joueurs, il y a une grosse différence entre les deux équipes. Là.
Sur cette saison, je pense que je suis assez d'accord avec Marc, Denis, que Lindgren a une meilleure saison que Chesterkin. Sans Lindgren puis sans ses performances exceptionnelles, je pense pas que les Caps seraient en série. Donc, sur cette saison, oui, OK, peut-être que Lindgren est meilleur, mais globalement, Chesterkin est clairement un meilleur gardien, ça, on s'entend là-dessus. Baptiste a parlé de Ovi, le fameux Ovechkin. qui est en fin de carrière. Tu penses quoi de son début de série à date? Presque invisible. Un tir au but aujourd'hui, c'est son seul tir de la série. Langage verbal aussi, c'est pas fameux du côté d'Ovechkin. Tu as parlé d'un revirement tantôt. Qu'est-ce que tu penses là, de sa série jusqu'à maintenant?
J'ai l'impression que les Caps, ils parlent un peu de l'image des Caps, là, comment Ovechkin agit. Ils ont du travail très fort pour faire les séries. Personne ne les voyait jusqu'au dernier instant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue qu'on peut ressentir chez Ovi, chez les Caps. Puis en ce moment, je pense qu'Ovi accuse un peu le coup de la fatigue, peut-être de son âge un peu, du jeu de la rudesse en série, du jeu rude des Rangers. Là, on le sait, avec des Matt Rempe, des Jacob Trouba, c'est pas facile, ces gars-là. Donc, je pense que c'est difficile en ce moment pour Ovechkin. Mais bon, ce gars-là, il peut tirer n'importe quand, n'importe où. Puis il peut toujours sortir un lapin de son chapeau, un peu comme tout l'effectif des Rangers. Mais bon, on espère.
T'as raison de parler de fatigue du côté d'Ovechkin. Tu sais, on l'a vu. Ovechkin a eu un très mauvais début de saison. Il s'est poussé tout au long de la saison pour atteindre le plateau des 30 buts, marque symbolique dans sa carrière pour lui qui atteignait pour une énième
saison. Je pense 18e saison de 30 buts ou 19.
Exactement, je pense que c'est ça. Sans compter 2020, 2021, la saison écourtée où il y a eu seulement 24 buts. Mais tu sais,
incroyable.
C'est fou. Mais on le voit, c'est pas le même joueur que c'était dans les années précédentes. Puis je pense que justement, son corps l'a peut-être un peu rattrapé. Il s'est peut-être un peu trop donné dans la saison régulière afin d'atteindre ce plateau symbolique-là. Puis on le voit là, dans ses résultats depuis le début des séries. Mais encore une fois, c'est pas juste Ovechkin. Il y a vraiment un manque au niveau offensif du côté des Capitals. Puis tu l'as mentionné, aussi à la brigade défensive, ça va vraiment pas bien avec plusieurs blessés. On va chercher des joueurs qui ont beaucoup, ils ont de l'expérience à la Ligue bleue. Tu sais, je pense notamment à Lucas Johansson, le frère de Ryan Johansson, qui est un choix de première ronde en 2016. Mais tu sais, ce gars-là a joué, je pense, une vingtaine de matchs gros maximum dans sa carrière. C'était son premier match en série, puis il a joué 11 minutes aujourd'hui.
Ouais.
Ça montre à quel point l'effectif est maigre du côté des Capitals, puis ça montre à quel point ils ont de la difficulté à rivaliser avec les Rangers.
C'est presque 31 minutes pour un John Carlson, là. Puis lui aussi, là, il est pas jeune, le beau John, là. Fait que c'est difficile pour le corps, puis tu peux pas donner ton 100% si t'es complètement essoufflé, là. Donc, ouais, puis pour ce que vous avez dit sur Ovi, complètement d'accord. C'est un peu, en effet, Ovi peut toujours marquer n'importe où puis sortir un gros but de son chapeau, on le sait, c'est Ovi. Mais j'ai l'impression que, malheureusement, il sert juste un peu à ça de nos jours, là. Il est tellement pas impliqué dans le reste du jeu. Je regardais tantôt, là, il restait 30 secondes, puis là, il fallait qu'il gagne une bataille puis il reprenne la rondelle. C'était pas Ovi qui faisait ces jeux-là, c'est TJ Oshie, c'est Max Pacioretty, c'est même Hendrix Lapierre qui vont essayer d'aller chercher les rondelles en fond de coin. Ovi ne sert plus qu'à tirer, là, c'est pas mal ça. Et vous l'avez dit, l'ensemble de la formation des Capitals n'est pas capable de rivaliser avec celle des Rangers. Là, on l'a vu, là, un simple revirement, un simple... Lafrenière qui récupère la rondelle dans le coin de la zone, passe à Trocheck à Zibanejad, et voilà, c'est dans le but. C'est un claquement de doigts qu'on est capable de marquer du côté des Rangers, et ça prend tout l'effort du monde pour ce qui est des Caps. Donc vraiment, je pense que cette série, si on continue comme ça, a de très bonnes chances de finir en 4 matchs, sinon 5 matchs. Mais bref, à suivre. Penchons-nous donc maintenant vers l'autre série dans l'Est. Très gros match, très gros, vraiment divertissant. C'était pas beaucoup de buts, mais des arrêts fantastiques, autant de Vasilevskiy que de Sergei Bobrovsky. Sam Bennett qui a marqué le premier du match. Sam Bennett qui a ensuite quitté pour le vestiaire, n'est pas revenu dans le match. Ça pourrait être une perte importante pour les Panthers. Ensuite, Tarasenko qui a marqué pour les Panthers. Braden Point, Steven Stamkos. Donc, encore une fois, les gros noms du côté des Panthers qui s'inscrivent au pointage. Stamkos, encore une fois, en avantage numérique. Et finalement, ça a nécessité la première prolongation de ces séries 2024. Et qui a marqué ce but? Carter Verhaeghe. Je vous ai envoyé la statistique tantôt. 5 buts gagnants en prolongation jusqu'à maintenant dans sa courte carrière. C'est à égalité avec plein de gros noms, à un seul but de Maurice Richard quand même. C'est fou ça, Carter Verhaeghe. Baptiste, parle-moi de cette rencontre folle, un duel de gardiens au sommet et une rencontre extrêmement divertissante.
L'an dernier, les Panthers, là, pour revenir, on se rappelle, ils se sont rendus en finale alors qu'on ne les attendait pas du tout. Cette année, personnellement, je les vois se rendre au moins en finale de l'Est, voire même en finale de la Coupe Stanley. Puis, on a une démonstration, là. Ils sont plus complets, je pense, ben, de loin, à vrai dire, que l'année dernière, autant en défense, en attaque. Puis, dans les buts, Bobrovsky, depuis les séries de l'année dernière, c'est complètement... Il est redevenu le gardien qu'il était autrefois à Columbus, là. Aujourd'hui, ouais. Il fait un arrêt que, je pense, ça peut être top 5 de l'histoire des arrêts de la Ligue nationale, là, facilement. C'est des arrêts que nous, à Montréal, on sera Price, nous, ça nous rappelle des Price dans son prime. Mm-hmm. Mais sans les comparer, c'était vraiment un arrêt incroyable. Vasilevski aussi fait un très bon match, là, on va se le dire. Donc, c'est une série qui va être intéressante, je pense, à suivre, là, la rivalité entre les deux équipes. Mais vraiment, les Panthers, aujourd'hui, match complet. Puis l'avantage numérique a encore eu son mot à dire, là, avec un but de chaque côté à des moments importants. Fait que, et puis juste pour terminer, là, le Lightning, ils perdent 2-0, ils ont eu quoi? Un tiers, deux tiers en première.
Ouais.
Ils reviennent avec deux buts rapides en deuxième période. Fait que c'est une équipe, je pense, qu'il ne faut jamais penser battue. Ils sont capables de revenir n'importe quand. Ils ont les forces de frappe qu'il faut. Là. Ils ont des joueurs de très, très haut calibre là, avec des Stamkos, Braden Point, Kucherov, Victor Hedman encore. Donc, ouais. Ça va être une série intéressante à suivre jusqu'au bout, je pense.
Ouais. Mm-hmm. T'en as parlé. Oh, vas-y, Vince.
Ah, je suis d'accord. J'ai vraiment aimé que tu parles de l'arrêt de Bobrovsky parce que je regardais sur Twitter un peu plus tôt, puis nos homologues des Spitted Chicklets ont mentionné que c'était, selon eux, l'arrêt du siècle. Okay, moi, pour moi, cet arrêt-là, c'est le plus bel arrêt que j'ai vu de ma vie, je crois. J'arrive pas à croire comment il est capable de dos, de se tourner et avec son coude être capable d'atteindre cette rondelle-là. C'est impensable qu'une personne est physiquement capable de faire ce genre de déplacement-là et il a été capable de le faire dans un des moments les plus importants des séries. Je pense que tout ce qui se dit en ce moment sur Bobrovsky, il mérite. C'est le genre de joueur qui, on sait, a eu plusieurs difficultés tout au long de sa carrière à être capable de s'imposer dans les matchs qui comptaient réellement. Là, je pense qu'il a peut-être eu cet élément déclencheur-là qui fait que il est capable de sortir ces gros arrêts-là dans des moments où ils sont importants. Tu as parlé aussi de Connor Verhaeghe. On peut l'appeler Monsieur Prolongation, je pense.
Oui.
Le surnom lui va à merveille. C'est le joueur que n'importe quelle équipe aimerait avoir à ses côtés en entrant en prolongation. C'est un joueur...
Tel un Didier Drogba, n'est-ce pas?
Ah, écoute, moi, si j'ai Connor Verhaeghe ou Didier Drogba, je commence à douter. Là. Je ne sais pas lequel des deux de prendre. Puis, c'est un luxe de pouvoir avoir ce joueur-là dans son équipe. Comme on l'avait mentionné dans le podcast précédent, encore une fois, du côté des Panthers, c'est la force de frappe offensive qui fait le plus mal. Ouais. Tkachuk, encore une fois, qui est incroyable.
Barkov aussi. Là.
Barkov est incroyable. Là, Tarasenko, qui est capable, qui avait été un petit peu plus discret lors du premier match, là, qui vient apporter un gros but en avantage numérique. C'est la force de frappe auquel on s'attendait du côté des Panthers. T'sais, 37 tirs, chapeau à Vasilevski qui était capable de sortir des gros arrêts lui aussi. Mm-hmm. C'est vraiment un duel de gardiens comme tu l'as mentionné.
Ouais. Écoute, c'est des gros mots que tu dis là, en parlant de l'arrêt de Bobrovsky comme le plus impressionnant que tu as vu de ta vie. C'est clairement un des plus impressionnants, moi aussi. Mais peut-être qu'on est trop dans le moment présent. Ouais. Là, puis, mais avec du recul, c'est... T'as Carey Price, t'as Marc-André Fleury, t'as Henrik Lundqvist que j'ai des souvenirs que autant en saison qu'en série, on a fait des incroyables aussi. Mais Bobrovsky, t'as raison, c'était surhumain comme arrêt. Mais je pense vraiment que le gardien qui a eu le plus à sauver son équipe dans ce match-là, c'est Vasilevski. Parce que les Panthers sont la meilleure équipe dans cette série-là depuis dans les deux premiers matchs. La force de frappe et tout. Vasilevski, des gros arrêts, un arrêt sur un déplacement, un tir sur réception, je me rappelle plus c'était qui, mais gros arrêt là-dessus. Il y a trois arrêts consécutifs à maner, là, Jean-Bierre, puis ensuite Mitaine. C'était impressionnant. Puis ça, ça aurait pu être deux buts là, qui étaient très collés, qui auraient pu vraiment faire envoler les Panthers. Donc, Lightning peut vraiment compter sur un Vasilevskiy des beaux jours. Puis si les Panthers veulent remporter cette série, ça va vraiment passer par ça. Puis encore une fois, à côté du Lightning, là, le gros problème, je pense que c'est le bottom six, parce qu'on le sait, le Stamkos a encore marqué, point a marqué, Kucherov a des points, Edman joue bien. C'est ce qu'il y a en dessous, là, c'est qu'est-ce qu'on on rivalise pas avec ce bottom six des Panthers. Les Panthers vont chercher le momentum quand c'est ces trios-là du Lightning qui est sur la glace. Donc clairement, le problème, c'est pas les deux premiers trios. Puis Baptiste, je voudrais t'entendre là-dessus, sur du côté du Lightning. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à faire changer la vapeur de côté en étant à domicile?
Mais c'est moi, comment je regarde, là, je suis peut-être vieux jeu ou je suis peut-être par rapport au soccer, mais l'avantage de la glace, là, comme j'ai dit plus tôt avec la première série, j'attends toujours de le voir au moins le troisième match pour voir est-ce qu'une équipe est capable de vraiment rebondir avec ses partisans. Puis Lightning, avec l'expérience qu'ils ont acquise dans les dernières années, avec des victoires et tout, surtout à domicile, on le sait que c'est un aréna intimidant, une foule qui est quand même hostile. Donc, j'attends de voir comment ils vont réagir. John Cooper, c'est un gars qui est capable de s'adapter aussi. Fait que j'ai hâte de voir comment il va préparer le plan de match pour le troisième match à Tampa Bay. Mais c'est sûr qu'il va falloir changer quelques affaires, essayer de. Que le troisième, quatrième trio, comme tu as dit, soit un peu plus d'impact. Je ne sais pas comment faire, mais c'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'une différence à ce niveau-là. Mais sinon, c'est ça. Moi, j'attends de voir le troisième match pour voir s'ils sont capables. Puis dépendamment de celui-là, après, je pense que ce sera plus simple de se prononcer pour pas mal toutes les séries après avoir vu les matchs dans les arénas de chacun.
Ouais, je suis d'accord. On se déplace du côté de la Bally Arena pour un match qui va être crucial pour le restant de la saison du côté du Lightning. Je m'attends à ce qu'on voit le Lightning des beaux jours. T'sais, ça reste quand même un noyau qui est fort. C'est, on le sait, c'est plusieurs Coupes Stanley en peu de temps du côté du Lightning avec un corps qui n'a pas tellement changé. Fait que j'ai hâte de voir la réaction. T'sais, on le sait, du côté du MLB Arena, l'ambiance est électrique. C'est le cas de le dire avec le Lightning, mais j'ai vraiment hâte de voir à quel point la foule va être capable de pousser son équipe vers le top. En tout cas, on le souhaite pour les partisans du Lightning. Mm-hmm. J'avais une question.
Oui.
Notre ami Tanu Janot, on l'a pas vu aujourd'hui.
J'imagine qu'il a été retiré de la formation parce que je le vois pas là, dans les joueurs qui étaient présents.
Oui, exactement. Mais c'est ça. Moi aussi, je l'ai pas vu. Puis je sais pas si John Cooper avait entendu nos propos sur lui. Ouais. Lors
à moins qu'il y ait un petit pépin physique, là, c'est peut-être ça. Ouais, mais
j'ai rien trouvé. Fait que je sais pas si c'est ça, justement. Je peux fouiller encore plus.
Ouais. Moi non plus, j'ai rien vu. Fait que je pense que John s'est tanné. Je pense que c'est ça la raison. Là. John Cooper s'est tanné du rendement de Tanner Janot, puis a décidé de faire autre chose. Mais Janot, c'était pas le seul aussi. Je parlais du 3-4e trio, là, mais tu sais, des gars comme Anthony Cirelli, Nick Paul, Brandon Hagel, c'est des gars qui sont pas nécessairement 3-4e trio et qui doivent en faire plus. Je les ai pas beaucoup vus là, à date dans les deux premiers matchs côté du Lightning. Puis c'est des gars qui sont importants. Là. C'est pas juste des Kucherov et tout. Là. Non seulement ces gars-là doivent apporter du momentum, mais aussi participer à la production offensive, parce qu'à date, à pointe, Stamkos, Kucherov, c'est pas mal les seuls qui ont contribué offensivement. Anthony Duclair un peu. Mais vraiment, des gars comme ceux que j'ai mentionnés doivent aussi produire et s'inscrire au pointage.
Tu sais, gars comme Michael Essiemon, qui a une saison quand même assez respectable, 11 buts, 14 passes, on s'attend à un petit peu plus de ce genre de joueur un peu mi-âge. T'sais, c'est pas des jeunes joueurs, c'est pas des vétérans non plus. On s'attend à ce que ces joueurs-là aient une certaine fougue afin de donner le meilleur, mais on le voit pas du côté du Lightning. Je pense que ça vient un peu nuire à la formation actuelle.
Tout à fait, tout à fait. Puis ben pour le bien là, de notre plaisir personnel, on espère là, que le Lightning va pouvoir gagner un match ou deux, donner à cette série-là vraiment l'aspect serré qu'on mérite puis qu'on peut s'attendre avec cette bataille floridienne. Ça va être à suivre dans les deux prochains matchs qui seront du côté de Tampa Bay. Maintenant, dans l'Ouest, les boys, l'Avalanche et les Jets, quel premier match on avait eu là, 7-6. On a eu un petit peu moins de buts, mais ça a été quand même une rencontre divertissante. Au contraire là, du duel des gardiens qu'on a eu entre Bobrovsky et Vasilevski, ça n'a pas été ça du tout. Gorgiev s'est repris cependant, à lui seulement 2 buts, même si ça a mal commencé. C'est Hellebuck là, qui a surpris en n'ayant pas une bonne performance, une sortie complètement hasardeuse là, sur le but. Je pense que c'était le but gagnant du match en plus. On entend souvent là, que Hellebuck n'est pas capable de performer en série éliminatoire comme il est capable de performer en saison régulière. Et avec ce match-là, ben c'est un peu vrai. Là. Ça va être à lui de renverser cette tendance-là. Juste mentionner les buteurs. David Gustafsson qui a ouvert le score pour Winnipeg. Miles Wood pour l'Avalanche a répliqué. Scheifele, puis ensuite, ça a été tout du côté de l'Avalanche. Lekkonen, Parise, Manson et Shushkin. Lekkonen, on parlait de Virgi, lui aussi, un clutch guy en série. Déjà son deuxième but des séries. Vince, comment tu as trouvé ce match-là? Puis est-ce que tu es d'accord là, avec que le Buck? Pas un gros match de sa part, là.
Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. On se demandait comment une équipe comme Colorado est capable de sortir gagnant de cette série-là si même en marquant 6 buts, ils n'étaient pas capables de prendre l'avantage. Mais là, ils en ont marqué 5 au deuxième match. Ça vient prouver une certaine faiblesse du côté de Hellebuck.
Il avait vraiment fait des ailes, donc 4
mètres. Ouais, c'est vrai. Hellebuck a accordé 4 buts. Ouais. C'est vrai que le score démontre 5. Mais tu sais, on voit les buts. Là. C'est des erreurs de concentration. Je pense notamment le but de Miles Wood, qui est un but directement après la mise au jeu. On voit qu'il n'était même pas placé correctement, prêt à affronter un tir. Tu l'as mentionné aussi, la sortie hasardeuse qui s'est résumée au but de Zach Parise. Mais moi, le but qui me vient en tête, c'est Josh Manson qui sort du banc de pénalité et qui vient marquer encore une fois entre les jambes de Hellebuck. On le sait, c'est principalement sa plus grande faiblesse entre les jambières. Ben, j'ai l'impression que l'Avalanche ont su profiter de cette faiblesse-là à merveille. Tu sais.
Tout à fait. Puis en plus, Josh Manson n'a vraiment pas connu un bon match lors du premier match. Ne connaissait pas vraiment un bon début de rencontre non plus, avec plusieurs revirements qui auraient pu être coûteux. Mais là, va vraiment se racheter là, avec ce but important, ce but d'assurance qui a fait 4-2. Puis Zach Parise, juste une petite note sur lui, c'est incroyable. Lui, là, ce vétéran qui n'a toujours pas de Coupe Stanley, qui là, a une grosse chance contre l'Avalanche. Donc, bien content de le voir performer. Baptiste, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette série-là qui est hautement divertissante jusqu'à maintenant? Là?
Ben, on en parlait dans la conversation, là. Vincent il avait dit, puis même moi, je pensais que c'était ça, quand le 4 minutes de Winnipeg, ils n'ont pas accordé de but, puis après, Mark Scheifele vient marquer un gros, gros but. Moi, je pensais vraiment que c'était le point tournant qui allait faire partir la machine pour les Jets. Finalement, au contraire, 3 buts sans réplique dans les 5-6 dernières minutes de la deuxième période pour Colorado, 4-2, surtout avec le dernier but, c'est quoi? C'est à 5-6 secondes avant la fin de la période.
Ouais.
Fait que c'est un but qui fait beaucoup de mal. Puis cette période-là, la deuxième, elle a complètement été dominée. Là. Comme un peu la deuxième partie de la première, il y a eu un 30 minutes qui a été complètement dominé par l'Avalanche. En troisième, les Jets sont revenus, mais l'Avalanche a bien géré la troisième période avec une avance de 2 buts. Mais je pense vraiment que le point tournant, ça a été les 3 buts sans réplique, alors que contre toute attente, en perdant 2-1 à l'extérieur en plus, l'Avalanche a su revenir de l'arrière. Puis il montre une équipe très complète, je trouve, à date. Là, il y a beaucoup. C'est pas juste des McKinnon, McCarr, c'est sûr, ils aident, mais toute l'équipe contribue au succès en ce moment. Puis c'est une des équipes les plus complètes dans les 2 premiers matchs d'une série cette saison, à date cette année.
Vraiment. Ouais, vas-y, Vince. OK. Ben ouais, tout au contraire du Lightning, là, t'sais, on parlait des autres trios Lightning qui ne produisaient pas, mais du côté de l'Avalanche, on sait que nos 2 premiers trios, ou du moins notre premier trio, va produire en masse. Mais là, tu as de la contribution de Lekkonen, de Miles Wood, On a vu le quatrième trio aussi produire Zach Parise. Fait que c'est ce genre de contribution-là que ça te prend pour une équipe complète et gagnante, comme tu le disais. Puis tu fais très bien de mentionner la deuxième période parce que j'ai l'impression que tout s'est joué là. Moi aussi, j'avais l'impression que le point tournant dans le match, ça serait le 4 minutes de Kyle Connor. Finalement, comme tu l'as dit, l'Avalanche n'a pas marqué. C'est Scheifele qui marque tout de suite après. Puis on dit « Oh, OK, les Jets, ils sont là. » Mais on connaît, puis il faut se méfier de cette puissance offensive, cette capacité de marquer un but de n'importe où. Le but de Miles Wood, c'est aussi ça. Là. C'est de nulle part après le cercle de mise au jeu. Bam, c'est dans le but. Lebock n'a rien vu. Fait que l'Avalanche, qui est une équipe, je pense, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale pour remonter une avance, pour revenir de l'arrière cette année dans la Ligue nationale. Donc, tu as très bien expliqué, Baptiste. L'Avalanche, il faut vraiment faire attention à eux dans ces situations-là. Une équipe qui peut tout faire là, dans un match. Vince, je te laisse, t'allais dire quoi?
Ouais, on parlait justement le match juste avant que l'importance du côté du Lightning du retour à la maison. Mais là, on a eu cette impression-là après le 5 contre 4 en 4 minutes que les Jets étaient transcendés par l'atmosphère, la marée blanche partout à Winnipeg. Ouais. Puis on l'a vu directement après le but de Scheifele, mais on l'a vu aussi après le but de Lekkonen. Cette marée blanche-là s'est calmée très rapidement.
Mm-hmm. Mais t'avais-tu acheté quelque chose?
Non, c'est ça.
Okay. Ben oui, tu fais très bien de mentionner. Les Jets, c'est un élément qui m'impressionne niveau gradin, là, comme on le mentionnait. Vraiment, cet aspect, on dirait septième joueur. Au soccer, on parle du 12e. Mais voilà, septième joueur au hockey, on le sent vraiment. Nino Niederreiter qui fait un gros jeu défensif, puis on scande Nino. Ça fait penser à la foule du Centre Bell. Fait que vraiment, chapeau à Winnipeg pour ça, même si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Je voulais te parler aussi de Gorgiev, Vince, parce qu'on en a beaucoup parlé dernier épisode Avalanche Jets. Comment t'as trouvé son match aujourd'hui? Pas mal plus confiant devant les filets, a fait quand même de bons arrêts, même si ça a mal commencé.
Ça a mal débuté, puis j'ai eu peur encore une fois pour l'Avalanche. J'avais vraiment peur qu'ils se mettent dans la même mentalité défaitiste du premier match. Mais on a pu observer certaines frayeurs à certains moments. Tu sais, je pense que j'ai en tête quelques poteaux, quelques tirs qui ça a passé très près parce que Gorgiev, on l'a dit, on l'avait dit précédemment, il joue petit dans son filet, fait que ça donne des opportunités aux francs-tireurs. Tu sais, Kyle Connor, il a eu des opportunités en or qu'il n'a pas su concrétiser. Mais par contre, je l'ai senti au fur et à mesure du match, en confiance. J'ai l'impression qu'il a obtenu une certaine confiance avec des arrêts clés, des arrêts qui sont des arrêts de routine, mais qui mettent en confiance justement. Puis j'ai vraiment senti que son équipe était derrière lui beaucoup plus qu'au dernier match. J'ai senti que ça, c'était peut-être l'élément qu'avait besoin Gorgiev dans ce match-là afin de fournir une performance qui... Il y avait beaucoup de critiques sur Gorgiev, puis je pense qu'il a su quand même répondre à ses attentes.
Oui, tout à fait. C'est quand même 28 arrêts pour Gorgiev. Puis j'en ai mentionné quelques beaux. Tu as parlé de Ivan Prosvetov, Baptiste, tantôt dans la conversation. Selon toi, si Gorgiev connaît une mauvaise passe là, dans les prochains matchs, est-ce qu'on peut s'attendre à le voir ou... En vertu de son match, de son pas pire match qu'il vient de disputer aujourd'hui, est-ce que tu restes avec lui, no matter what?
Ben pour moi, c'est sûr que Gorgiev va jouer le match numéro 3 en tant que partant.
Oui.
On va voir la suite de la série. Là. C'est dur de juger en avance. Par contre, pour les Jets, pardon, qui met moi en confiance, j'ai l'impression, c'est que j'aurais préféré, d'accorder. Les deux buts vers la fin du match plutôt que vers le début parce qu'un gardien qui monte en confiance comme ça tout au long du match, comme Vincent a dit, c'est très dangereux. Puis là, le prochain match, avec une confiance comme il a accumulé avec sa deuxième partie de la deuxième période après le but de Scheifele, puis sa troisième période, c'est exactement la confiance que lui recherchait, que son équipe recherchait, puis qui est au troisième match qui peut vraiment être bénéfique pour lui, chez lui, avec ses partisans qui vont être derrière lui. Donc, ça va être difficile de l'ébranler. Après, par contre, s'il accorde des buts, je pense qu'il est fragile en ce moment. Là, c'est le genre de gardien. Puis de moment que s'il va accorder un mauvais but ou il va accorder des buts rapidement au prochain match, ça pourrait être compliqué pour lui. Donc, à ce moment-là, on va voir si Prozvetov peut arriver en relève. Là. C'est un jeune gardien prometteur. Fait qu'on va voir si Jared Bednar lui fait confiance. Mais c'est un coach qui est assez qui préserve assez ses gros joueurs normalement. Donc, je serais surpris, surtout après le premier match où il a accordé 7 buts, de voir arriver Prozvetov plus tard dans la série. Mais on ne sait jamais selon le tournant que ça va prendre.
J'ai pas l'impression. T'sais, on parle de Prozvetov, mais Prozvetov, je pense pas qu'il va arriver là-bas comme sauveur. Là. On l'a vu cette saison. Seulement 4 victoires en 11 matchs, une moyenne de 3,16. Il s'en vient dans un enjeu qui est très important. On vise franchement la Coupe Stanley du côté de l'Avalanche. J'ai du mal un peu à avoir une dynamique positive où l'Avalanche tire de l'arrière et amène Prozvetov dans le but de changer la dynamique, cette possible dynamique-là. J'ai trop peu d'éléments qui me démontrent en ce moment qu'il est capable d'assumer cette responsabilité-là. T'sais.
Tout à fait. Bien d'accord avec vos propos. Je pense qu'on a plus de chances d'avoir un Anunen, parce qu'il est toujours malade de ce que j'ai vu. Donc, lui qui a gardé les buts plus que Prozvetov cette saison, on aurait peut-être plus de chances de le voir. Mais comme vous l'avez dit, Jared Bednar reste très accroché là, à Gorgiev. Là, donc, ça va être difficile de le déloger, là, comme on l'a dit, même après 7 buts. N'a pas été enlevé. Dernière confrontation de ce 23 avril dans ces séries de la LNH 2024, c'était le match numéro 2 entre les Predators et les Canucks. Match numéro 2 qui a été remporté par les Preds. Mais ce qu'on a surtout retenu là, avant le match, c'est Thatcher Demko qui était blessé. Et oh, que, comme tu l'as dit, Vince, ça change des brackets, ça, pas à peu près. C'est tellement une lourde perte pour les Canucks. Thatcher Demko, qui était, on parlait du classement de Marc Denis tantôt, il a été deuxième, si je ne me trompe pas, dans ce classement de Marc. Donc, énorme perte. C'est vraiment pas la même série avec Casey DeSmith devant les filets. Pour mon bracket, c'est très bien parce que j'avais dit les Predators. Mais voilà. Puis aussi Tyler Myers qui n'a pas joué ce match-là. Je connais pas la gravité de sa blessure. Mais c'est deux gros morceaux, surtout Demko du côté des Canucks. Et bref, donc les Preds qui ont pris l'avantage avec Beauvillier en première période. Ensuite, Philip Forsberg, Colton Sissons en deuxième. Nikita Zadorov a fait 3-1, mais c'était trop peu, trop tard. Et finalement, Kiefer Sherwood dans un filet désert. Un match extrêmement défensif. 16 tirs par les Preds et 18 par les Canucks. Et les Predators là, ont vraiment été en mode on park le boss en troisième période. Je pense que c'est un seul tir, puis c'est le but en filet désert là, en troisième période pour les Predators. Donc, pas le match le plus divertissant, on va dire ça comme ça. Mais c'est du hockey tiré, puis c'est la stratégie employée par les Preds. Baptiste, qu'as-tu pensé de cette série? Puis est-ce que les Canucks peuvent s'en sortir sans Thatcher Demko?
Ben, écoute, Casey DeSmith, on sait que c'est sûr que c'est pas Thatcher Demko. Là. Demko, on parle d'un gars qui va probablement être nominé pour le Vezina parmi les trois finalistes cette saison. Mais DeSmith, en son absence, là, surtout au mois de mars, il a manqué une coupe de match. Demko, DeSmith avait bien fait. C'est sûr que c'est pas pareil, mais je pense qu'il va être capable de tenir le fort. T'sais. Mettons, ce soir, ça a moins été facile. Là. Il donne 3 buts sur 17 tirs si on enlève sur 15 tirs si on enlève le but en filet désert. Mais je veux dire, je pense qu'il est capable de rebondir. Là. C'est un gardien qui a une certaine expérience, pas en série, ça c'est sûr. Je pense que c'est seulement son deuxième ou. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs en série. Là.
Quelques heures avec les Pingouins, je pense.
C'est ça, il n'y en a pas eu tellement, mais je pense qu'il va être capable de rebondir au prochain match. De toute façon, ils n'ont pas le choix, les Canucks. Ouais. Puis le moment qui a tout changé, c'est les deux buts rapides en deuxième qui font très mal aux Canucks. Puis après ça, le nombre de chances, de tirs bloqués, de tirs qui sont passés à côté du filet. Écoutez, les Preds ont totalement bien joué leur jeu défensif. Puis à voir s'ils vont être capables de répéter ça. Pour aller en chercher 3 victoires de plus, je ne suis pas certain, mais on va voir la suite de la série. Là, ça se transporte à Nashville, puis on va voir.
Tu as parlé de tirs bloqués. Roman Yossi, Ryan McDonagh, entre autres, qui ont été très, très, très efficaces dans ce département. Vince, qu'est-ce que tu as ajouté sur ce match?
Ben, encore une fois, ça a été un match très fermé, match très offensif, très défensif, avec très peu de séquences offensives. j'ai eu l'impression que du côté des Canucks, on a vraiment manqué d'opportunisme.
Oui.
Il y a eu tellement d'occasions manquées, tellement de buts laissés ouverts par Jussi Saros qui, des fois, s'étalait de tout son long pour essayer désespérément d'effectuer des arrêts. On a été vraiment, vraiment, vraiment chanceux du côté des Prédateurs. Puis je pense que ça c'est un élément vraiment important parce que là, on revient à la maison avec l'avantage de la glace. Ça, c'est indéniablement important du côté de la formation de Nashville parce que jamais, j'ai l'impression, sans la blessure de Thatcher Demko, puis t'sais, on va pas commencer à tirer sur Casey DeSmit parce qu'il n'y a pas à rougir de sa performance. Il a laissé des buts qui, des fois, je pense au but de Forsberg, il ne pouvait pas faire grand-chose. La feinte
était
excellente. Excellente feinte. Tire parfait. T'sais, il y a un but en filet désert. Je pense que la performance globale de Casey DeSmit n'est pas à le faire tirer.
C'est pas mauvaise.
Exactement. Mais cependant, j'ai quand même l'impression qu'il y avait mieux à faire du côté des Canucks ce soir. Elias Pettersson, il doit lever son
invisible à la
il est invisible. Je pense que c'est lui qui a manqué la plus belle opportunité de la soirée. Il avait but ouvert. Puis on l'a vu dans son attitude après qu'il ait raté. Il s'est étalé de tout son long sur la patinoire du moment où il a raté le tir. Le jeu était encore... la rondelle était encore en jeu. Puis il s'est laissé tomber sur ses genoux. J'ai l'impression qu'il y a un changement d'attitude qu'il doit avoir du côté des Canucks. Surtout quand que la rondelle ne roule pas de notre côté. Luke Hughes aussi. Je m'excuse, mais on
Quinn. Pense...
Quinn Hughes. Pardon,
pas de problème.
Il y a trop de news.
Ouais, il y a trop. Puis il y a le fils à Kent aussi, puis il y a Kent lui-même. Écoute, il y en a trop.
C'est difficile de toutes les différencier. Ouais. Non, mais c'est ça, Quinn Hughes. Tu sais, on parle de lui comme le possible vainqueur du Norris avec une saison exceptionnelle.
Ouais, moi, ça serait mon choix, moi, ouais.
Je m'excuse, mais il ne démontre pas des performances dignes d'un défenseur qui mérite le Norris. En tout cas, pas depuis le début des séries. Oui, il y a un but.
Dans l'aspect défensif, non
plus. Ouais, dans l'aspect défensif, surtout parce qu'il fait des revirements que jamais une équipe prétendante au trophée final, comme on pouvait l'espérer des Canucks, jamais on peut s'attendre à ce que ce joueur de ce standard-là effectue des jeux de la sorte. Mm-hmm. C'est mes impressions de la rencontre. Toi, Ali, je suis curieux. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Même si tu as dit que tu étais un peu moins intéressé.
Ouais, ben en fait, je suis moins intéressé parce que quand je regarde le nombre de tirs, mais ce que tu as parlé de Hughes, c'est très intéressant parce que tu regardes un autre possible candidat au Norris qui est Roman Yossi. On parlait de l'aspect défensif du jeu de Quinn Hughes. C'est vraiment Yossi a le dessus là, niveau défensif. J'ai pas les stats de Yossi en tir bloqué, mais j'en ai parlé, il en a bloqué beaucoup tantôt. C'est 30 tirs bloqués par les Prédateurs contre 8 pour les Canucks. Ça te montre comment on est beaucoup plus efficace de ce côté-là, du côté de Nashville. Puis tu as parlé de Pettersson. C'est vrai que Casey DeSmith, on ne peut pas tout lui mettre la faute dessus, vraiment pas. Même si c'est sûr qu'avec un Demko, on aurait plus de chances de gagner juste pour la confiance qu'il apporte à son équipe. Mais Pettersson se doit de lever son jeu d'un cran. C'est un gars de presque 100 points. Je pense qu'il n'a pas fait tout à fait 100 points cette année ou s'il l'a fait, il était proche. Bref, peu importe. Un gars qui a énormément de points cette année, qui a commencé en force. Donc, il doit faire sentir sa marque dans cette série-là. J'ai pas vraiment vu dernier match. Ce match-ci, non plus, pas du tout, t'as dit manquer une grosse chance. Brock Besser aussi. Brock Besser, c'est un buteur. Il doit toucher le fond du filet. Il doit marquer. C'est comme ça qu'il s'illustre dans un match de hockey. Un gars comme Ilya Mikheyev aussi, qu'on a souvent reproché son inconstance à Toronto, notamment en série. On dirait que pour l'instant, ça se reproduit du côté de Vancouver. Ça va être à ces joueurs-là de prouver le contraire puis de revenir en force dans les prochains matchs. Parce que sans Thatcher Demko, sans peut-être Tyler Myers, deux grosses pièces de cet effectif-là, ça va prendre là, des joueurs qui se lèvent. Et ça ne pourra pas toujours être Dakota, Joshua, comme on parlait dans le dernier match. Joshua qui a touché un poteau aussi, puis qui a failli...
Ça a passé très proche du côté de Joshua, encore une fois, ce soir. Mais tu sais...
Ça aurait pu faire 3-2, je pense, s'il avait marqué.
Ouais, exactement. C'était un moment très match, là, dans un moment où les Canucks dominaient complètement après un avantage numérique où je pense qu'il y a eu au moins 5 opportunités franches de marquer. J'ai l'impression qu'on a jeté des fleurs beaucoup au troisième trio des Canucks au dernier match. Là, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus difficile. T'sais, une fiche de moins 2 pour que ce soit Garland, Lindholm ou Joshua. Ils ont été en deçà de ce qu'ils ont montré lors du premier match. Puis ça démontre qu'on peut peut-être pas vraiment dépendre de ces joueurs-là afin de fournir une performance à chaque match qui va permettre à son équipe de sortir gros puis d'être capable d'aller apporter des points, être capable d'aller apporter des mises en échec importantes. Tu sais, je pense que la performance pas juste du troisième trio, mais ça principalement du troisième trio démontre à quel point les Canucks ont été en deçà des Predators ce soir.
Tout à fait. Puis pour ce qui est d'Elias Pettersson, on se demandait combien de points cette année. C'est 89 points, donc, en 82 matchs. Et ça montre donc une baisse de régime là, depuis la fin de saison parce qu'il était premier pointeur là, avec JT Miller en début de saison. Donc, ça alignait pour une saison de plus de 100 points. Donc, baisse de régime en fin de saison, baisse de régime également jusqu'à maintenant en série. Donc, vraiment, là, ça va être une des clés pour le succès futur des Canucks. Ça conclut donc notre épisode d'aujourd'hui. Très bon résumé, les gars. Baptiste, t'as aimé ça ton premier épisode de Première Loge?
Oui, ben oui, super agréable de discuter avec vous les gars ce soir.
Bien entendu, Vince aussi, toujours un plaisir de parler de ça avec toi.
Ben, toujours content de pouvoir parler d'hockey avec vous les boys.
Pis, yes, puis
hâte de voir ce que le futur nous apporte pour ces séries-là, parce que c'est que des matchs enlevant.
Oui, seulement 3 matchs cependant demain parce que Islanders et Caroline, ça ne joueront pas demain. C'est bizarre un peu.
Parce que les Knicks de New York, je pense.
Ah, il y a les Knicks. Ah, voilà. Ça
explique. Je ne sais pas si c'est ça.
Mais... Non, c'est les Nets. Mets... C'est-tu les Nets? Je ne sais pas si les Nets sont en série. Parce que les Knicks...
Les Knicks?
Les Knicks ne jouent pas à Brooklyn.
Okay. Bref.
Je ne sais pas.
On ne sait pas, mais bref. L'horaire fait en sorte que les Islanders et la Caroline ne joueront pas demain. Donc, ce sera 3 matchs demain à l'horaire. Et bien entendu, l'équipe de Première Loge sera là pour revenir sur tous ces matchs. Donc les gars, merci. Et à tout le monde, ben, je vous souhaite une très bonne suite dans ces séries éliminatoires. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Première Loge. Salut.